Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Les liaisons dangereuses, de Pierre Chauderlos de Laclos. Lettre 110. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Puissance du ciel, j'avais une âme pour la douleur, donnez-moi une pour la félicité. Nouvelle Héloïse. C'est, je crois, le tendre Saint-Preux qui s'exprime ainsi. Mieux partagé que lui, je possède à la fois les deux existences. Oui, mon ami, je suis en même temps très heureux et très malheureux. Et puisque vous avez mon entière confiance, je vous dois le double récit de mes peines et de mes plaisirs. Sachez donc que mon ingrate dévote me tient toujours rigueur. J'en suis à ma quatrième lettre, renvoyée. J'ai peut-être tort de dire la quatrième, car ayant bien deviné dès le premier renvoi qu'il serait suivi de beaucoup d'autres, et ne voulant pas perdre ainsi mon temps, j'ai pris le parti de mettre mes doléances en lieu commun et de ne point dater. Et depuis le second courrier, c'est toujours la même lettre qui va et vient. Je ne fais que changer d'enveloppe. Si ma belle finit comme finissent ordinairement les belles, et s'attendrit un jour, au moins de lassitude, elle gardera enfin la missive, et il sera temps alors de me remettre au courant. Vous voyez qu'avec ce nouveau genre de correspondance, je ne peux pas être parfaitement instruit. J'ai découvert pourtant que la légère personne a changé de confidente. Au moins me suis-je assuré que depuis son départ du château, il n'y est venu aucune lettre d'elle pour Madame de Volanges, tandis qu'il en est venu deux pour la vieille Rosemonde. Et comme celle-ci ne nous en a rien dit, comme elle n'ouvre plus la bouche sur sa chair belle, dont auparavant elle parlait sans cesse, j'en ai conclu que c'était elle qui avait la confidence. Je présume que d'une part, le besoin de parler de moi, et de l'autre, la petite honte de revenir vis-à-vis de Madame de Volanges sur un sentiment si longtemps désavoué, ont produit cette grande révolution. Je crains d'avoir encore perdu au change, car plus les femmes vieillissent, et plus elles deviennent rêches et sévères. La première lui aurait bien dit plus de mal de moi, mais celle-ci lui en dira plus de l'amour, et la sensible prude a bien plus de frayeur du sentiment que de la personne. Le seul moyen de me mettre au fait est, comme vous voyez, d'intercepter le commerce clandestin. J'en ai déjà envoyé l'ordre à mon chasseur, et j'en attends l'exécution de jour en jour. Jusque-là, je ne puis rien faire qu'au hasard. Aussi, depuis 8 jours, je repasse inutilement tous les moyens connus, tous ceux des romans et de mes mémoires secrets. Je n'en trouve aucun qui convienne, ni aux circonstances de l'aventure, ni au caractère de l'héroïne. La difficulté ne serait pas de m'introduire chez elle, même la nuit, même encore de l'endormir, et d'en faire une nouvelle Clarisse. Mais après plus de 2 mois de soins et de peines, recourir à des moyens qui me soient étrangers, me traîner servilement sur la trace des autres et triompher sans gloire? Non, elle n'aura pas les plaisirs du vice et les honneurs de la vertu. Nouvelle Héloïse. Ce n'est pas assez pour moi de la posséder. Je veux qu'elle se livre. Or, il faut pour cela non seulement pénétrer jusqu'à elle, mais y arriver de son aveu, la trouver seule et dans l'intention de m'écouter. Surtout, lui fermer les yeux sur le danger, car si elle le voit, elle saura le surmonter ou mourir. Mais mieux je sais ce qu'il faut faire, plus j'en trouve l'exécution difficile. Et dussiez-vous encore vous moquer de moi, je vous avouerai que mon embarras redouble à mesure que je m'en occupe davantage. La tête m'en tournerait, je crois, sans les heureuses distractions que me donne notre commune pupille. C'est à elle que je dois d'avoir encore à faire autre chose que des élégies. Croiriez-vous que cette petite fille était tellement effarouchée qu'il s'est passé 3 grands jours avant que votre lettre ait produit tout son effet? Voilà comme une seule idée fausse peut gâter le plus heureux naturel. Enfin, ce n'est que samedi qu'on est venu tourner autour de moi et me balbutier quelques mots, encore prononcés si bas et tellement étouffés par la honte qu'il était impossible de les entendre. Mais la rougeur qu'ils causèrent m'en fit deviner le sens. Jusque-là, je m'étais tenu fier, mais fléchi par un si plaisant repentir, je voulus bien promettre d'aller trouver le soir même la jolie pénitente. Et cette grâce de ma part fut reçue avec toute la reconnaissance due à un si grand bienfait. Comme je ne perds jamais de vue ni vos projets ni les miens, j'ai résolu de profiter de cette occasion pour connaître au juste la valeur de cet enfant et aussi pour accélérer son éducation. mais pour suivre ce travail avec plus de liberté, j'avais besoin de changer le lieu de nos rendez-vous, car un simple cabinet qui sépare la chambre de votre pupille de celle de sa mère ne pouvait lui inspirer assez de sécurité pour la laisser se déployer à l'aise. Je m'étais donc promis de faire innocemment quelques bruits qui pût lui causer assez de crainte pour la décider à prendre, à l'avenir, un asile plus sûr. Elle m'a encore épargné ce soin. La petite personne est rieuse, et pour favoriser sa gaieté, je m'avisais, dans nos entr'actes, de lui raconter toutes les aventures scandaleuses qui me passaient par la tête. Et pour les rendre plus piquantes et fixer davantage son attention, je les mettais toutes sur le compte de sa maman, que je me plaisais à chamarrer ainsi de vices et de ridicules. Ce n'était pas sans motif que j'avais fait ce choix. Il encourageait mieux que tout autre ma timide écolière, et je lui inspirais en même temps le plus profond mépris pour sa mère. J'ai remarqué depuis longtemps que si ce moyen n'est pas toujours nécessaire à employer pour séduire une jeune fille, il est indispensable et souvent même le plus efficace quand on veut la dépraver. Car celle qui ne respecte pas sa mère ne se respectera pas elle-même. Vérité morale que je crois si utile que j'ai été bien aise de fournir un exemple à l'appui du précepte. Cependant, votre pupille qui ne songeait pas à la morale étouffait de rire à chaque instant. Et enfin, une fois, elle pensa éclater. Je n'eus pas de peine à lui faire croire qu'elle avait fait un bruit affreux. Je feignis une grande frayeur, qu'elle partagea facilement. Pour qu'elle s'en ressouvînt mieux, je ne permis plus au plaisir de reparaître et la laissai seule 3 heures plutôt que de coutume. Aussi convînmes-nous, en nous séparant, que dès le lendemain, ce serait dans ma chambre que nous nous rassemblerions. Je l'y ai déjà reçue 2 fois. Et dans ce court intervalle, l'écolière est devenue presque aussi savante que le maître. Oui, en vérité, je lui ai tout appris, jusqu'aux complaisances. Je n'ai accepté que les précautions. Ainsi, occupée toute la nuit, j'y gagne de dormir une grande partie du jour. Et comme la société actuelle du château n'a rien qui m'attire, à peine parais-je 1 heure au salon dans la journée. J'ai même aujourd'hui pris le parti de manger dans ma chambre, et je ne compte plus la quitter que pour de courtes promenades. Ces bizarreries passent sur le compte de ma santé. J'ai déclaré que j'étais perdue de vapeur. J'ai annoncé aussi un peu de fièvre. Il ne m'en coûte que de parler d'une voix lente et éteinte. Quant au changement de ma figure, fiez-vous-en à votre pupille. L'amour y pourvoira. J'occupe mon loisir en rêvant aux moyens de reprendre sur mon ingrate les avantages que j'ai perdus et aussi à composer une espèce de catéchisme de débauche à l'usage de mon écolière. Je m'amuse à n'y rien nommer que par le mot technique, et je ris d'avance de l'intéressante conversation que cela doit fournir entre elle et Gercourt la première nuit de leur mariage. Rien n'est plus plaisant que l'ingénuité avec laquelle elle se sert déjà du peu qu'elle sait de cette langue. Elle n'imagine pas qu'on puisse parler autrement. Cette enfant est réellement séduisante. Ce contraste de la candeur naïve avec le langage de l'effronterie ne laisse pas de faire de l'effet. Et je ne sais pas pourquoi, il n'y a plus que les choses bizarres qui me plaisent. Peut-être je me livre trop à celle-ci, puisque j'y compromets mon temps et ma santé. Mais j'espère que ma feinte maladie, outre qu'elle me sauvera de l'ennui du salon, pourra m'être encore de quelque utilité auprès de l'austère dévote, dont la vertu tigresse s'allie pourtant avec la douce sensibilité. Je ne doute pas qu'elle ne soit déjà instruite de ce grand événement, et j'ai beaucoup d'envie de savoir ce qu'elle en pense. D'autant plus que je parierais bien qu'elle ne manquera pas de s'en attribuer l'honneur. Je réglerai l'état de ma santé sur l'impression qu'il fera sur elle. Vous voilà, ma belle amie, au courant de mes affaires comme moi-même. Je désire avoir bientôt des nouvelles plus intéressantes à vous apprendre. Et je vous prie de croire que dans le plaisir que je m'en promets, je compte pour beaucoup la récompense que j'attends de vous.
Take a look into my eyes and tell me what you see. Do you see a glow that sparkles every time you're close to me? Now listen when I talk and hear the words so clear. There is truth in what I'm saying. It happens when, happens when you're near. You are sweet, you are kind, you are beauty, you're just fine.
Lettre 111. Le comte de Gercourt à Madame de Volanges. Tout paraît, madame, devoir être tranquille dans ce pays. Et nous attendons de jour en jour la permission de rentrer en France. J'espère que vous ne douterez pas que je n'ai toujours le même empressement de m'y rendre et à y former les nœuds qui doivent m'unir à vous et à Mademoiselle de Volanges. Cependant, Monsieur le Duc de, mon cousin, et à qui vous savez que j'ai tant d'obligations, vient de me faire part de son rappel de Naples. Il me mente qu'il compte passer par Rome et voir dans sa route la partie d'Italie qui lui reste à connaître. Il m'engage à l'accompagner dans ce voyage qui sera environ de 6 semaines ou 2 mois. Je ne vous cache pas qu'il me serait agréable de profiter de cette occasion, sentant bien qu'une fois mariée, je prendrai difficilement le temps de faire d'autres absences que celles que mon service exigera. Peut-être aussi serait-il plus convenable d'attendre l'hiver pour ce mariage, puisque ce ne peut être qu'alors que tous mes parents seront rassemblés à Paris. Et nommément Monsieur le Marquis de, à qui je dois l'espoir de vous appartenir. Malgré ces considérations, mes projets à cet égard seront absolument subordonnés aux vôtres. Et pour peu que vous préfériez vos premiers arrangements, je suis prête à renoncer aux miens. Je vous prie seulement de me faire savoir le plus tôt possible vos intentions à ce sujet. J'attendrai votre réponse ici, et elle seule réglera ma conduite. Je suis, avec respect, madame, et avec tous les sentiments qui conviennent à un fils, votre très humble, etc., le comte de Gercourt. Lettre 112. Madame de Rosemonde à la présidente de Tourvel. Dictée seulement. Je ne reçois qu'à l'instant même, ma chère belle, votre lettre du 11 et les doux reproches qu'elle contient. Convenez que vous avez bien envie de m'en faire davantage et que si vous ne vous étiez pas ressouvenu que vous étiez ma fille, vous m'auriez réellement grondée. Vous auriez été pourtant bien injuste. C'était le désir et l'espoir de pouvoir vous répondre moi-même qui me faisait différer chaque jour. Et vous voyez qu'encore aujourd'hui, je suis obligée d'emprunter la main de ma femme de chambre. Mon malheureux rhumatisme m'a repris. Il s'est niché cette fois sur le bras droit, et je suis absolument manchotte. Voilà ce que c'est, jeune et fraîche comme vous êtes, d'avoir une si vieille amie. On souffre de ces incommodités. Aussitôt que mes douleurs me donneront un peu de relâche, je me promets bien de causer longuement avec vous. En attendant, sachez seulement que j'ai reçu vos 2 lettres. Qu'elles auraient redoublé, s'il était possible, ma tendre amitié pour vous, et que je ne cesserai jamais de prendre part, bien vivement, à tout ce qui vous intéresse. Mon neveu est aussi un peu indisposé, mais sans aucun danger et sans qu'il faille en prendre aucune inquiétude. C'est une incommodité légère qui, à ce qu'il me semble, affecte plus son humeur que sa santé. Nous ne le voyons presque plus. Sa retraite et votre départ ne rendent pas notre petit cercle plus gai. La petite Volanges, surtout, vous trouve furieusement à dire, et bâille, tant que la journée dure, à avaler ses poings. Particulièrement depuis quelques jours, elle nous fait l'honneur de s'endormir profondément tous les après-dîners. Adieu, ma chère belle. Je suis pour toujours votre bien bonne amie, votre maman, votre sœur même, si mon grand âge me permettait ce titre. Enfin, je vous suis attachée par tous les plus tendres sentiments. Signé Adélaïde pour Madame de Rosemonde. Lettre 113. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont. Je crois devoir vous prévenir, vicomte, qu'on commence à s'occuper de vous à Paris, qu'on y remarque votre absence et que déjà on en devine la cause. J'étais hier à un souper fort nombreux. Il y fut dit positivement que vous étiez retenu au village par un amour romanesque et malheureux. Aussitôt la joie se peignit sur le visage de tous les envieux de vos succès et de toutes les femmes que vous avez négligées. Si vous m'en croyez, vous ne laisserez pas prendre consistance à ces bruits dangereux et vous viendrez sur le champ les détruire par votre présence. Songez que si une fois vous laissez perdre l'idée qu'on ne vous résiste pas, vous éprouverez bientôt qu'on vous résistera en effet plus facilement, que vos rivaux vont aussi perdre leur respect pour vous et oser vous combattre, car lequel d'entre eux ne se croit pas plus fort que la vertu? Songez surtout que dans la multitude des femmes que vous avez affichées, toutes celles que vous n'avez pas eues vont tenter de détromper le public, tandis que les autres s'efforceront de l'abuser. Enfin, il faut vous attendre à être apprécié peut-être autant au-dessous de votre valeur que vous l'avez été au-dessus jusqu'à présent. Revenez donc, vicomte, et ne sacrifiez pas votre réputation à un caprice puéril. Vous avez fait tout ce que nous voulions de la petite Volanges, et pour votre présidente, ce ne sera pas apparemment en restant à 10 lieues d'elle que vous en passerez la fantaisie. Croyez-vous qu'elle ira vous chercher? Peut-être ne songe-t-elle déjà plus à vous, ou ne s'en occupe-t-elle encore que pour se féliciter de vous avoir humilié? Au moins ici, pourrez-vous trouver quelque occasion de reparaître avec éclat, et vous en avez besoin. Et quand vous vous obstineriez à votre ridicule aventure, je ne vois pas que votre retour y puisse nuire, au contraire. En effet, si votre présidente vous adore, comme vous l'avez tant dit et si peu prouvé, son unique consolation, son seul plaisir, doivent être à présent de parler de vous, et de savoir ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, et jusqu'à la moindre des choses qui vous intéressent. Ces misères-là prennent du prix, en raison des privations qu'on éprouve. Ce sont des miettes de pain tombant de la table du riche. Celui-ci les dédaigne, mais le pauvre les recueille avidement et s'en nourrit. Or, la pauvre présidente reçoit à présent toutes ces miettes-là, et plus elle en aura, moins elle sera pressée de se livrer à l'appétit du reste. De plus, depuis que vous connaissez sa confidente, vous ne doutez pas que chaque lettre d'elle ne contienne au moins un petit sermon et tout ce qu'elle croit propre à corroborer sa sagesse et fortifier sa vertu. Pourquoi donc laisser à l'une des ressources pour se défendre et à l'autre pour vous nuire? Ce n'est pas que je sois du tout de votre avis sur la perte que vous croyez avoir faite du changement de confidente. D'abord, Madame de Volanges vous hait, et la haine est toujours plus clairvoyante et plus ingénieuse que l'amitié. Toute la vertu de votre vieille tante ne l'engagera pas à médire un seul instant de son cher neveu, car la vertu a aussi ses faiblesses. Ensuite, vos craintes portent sur une remarque absolument fausse. Il n'est pas vrai que plus les femmes vieillissent, et plus elles deviennent rêches et sévères. C'est de 40 à 50 ans que le désespoir de voir leur figure se flétrir, la rage de se sentir obligée d'abandonner des prétentions et des plaisirs auxquels elles tiennent encore, rendent presque toutes les femmes bégueules et acariâtres. Il leur faut ce long intervalle pour faire en entier ce grand sacrifice. Mais dès qu'il est consommé, toutes se partagent en deux classes. La plus nombreuse, celle des femmes qui n'ont eu pour elles que leur figure et leur jeunesse, tombent dans une imbécile apathie, et n'en sort plus que pour le jeu et pour quelques pratiques de dévotion. Celle-là est toujours ennuyeuse, souvent grondeuse, quelquefois un peu tracassière, mais rarement méchante. On ne peut pas dire non plus que ces femmes soient ou ne soient pas sévères. Sans idée, sans existence, elles répètent, sans le comprendre et indifféremment, tout ce qu'elles entendent dire, et restent par elles-mêmes absolument nulles. L'autre classe, beaucoup plus rare, mais véritablement précieuse, est celle des femmes qui, ayant eu un caractère et n'ayant pas négligé de nourrir leur raison, savent se créer une existence. Et quand celle de la nature leur manque, elles prennent le parti de mettre à leur esprit les parures qu'elles employaient avant pour leur figure. Celles-ci ont pour l'ordinaire le jugement très sain et l'esprit à la fois solide, gai et gracieux. Elles remplacent les charmes séduisants par l'attachante bonté et encore par l'enjouement dont le charme augmente en proportion de l'âge. C'est ainsi qu'elles parviennent, en quelque sorte, à se rapprocher de la jeunesse en s'en faisant aimer. Mais alors, loin d'être, comme vous le dites, rêche et sévère, l'habitude de l'indulgence, leurs longues réflexions sur la faiblesse humaine, et surtout les souvenirs de leur jeunesse, par lesquels seules elles tiennent encore à la vie, les placeraient peut-être plutôt trop près de la facilité. Ce que je peux vous dire enfin, c'est qu'ayant toujours recherché les vieilles femmes, dont j'ai reconnu de bonne heure l'utilité des suffrages, j'ai rencontré plusieurs d'entre elles auprès de qui l'inclination me ramenait autant que l'intérêt. Je m'arrête là, car à présent que vous vous enflammez si vite et si moralement, j'aurais peur que vous ne devinssiez subitement amoureux de votre vieille tante et que vous ne vous enterrassiez avec elle dans le tombeau où vous vivez déjà depuis si longtemps. Je reviens donc. Malgré l'enchantement où vous me paraissez être de votre petite écolière, je ne peux pas croire qu'elle entre pour quelque chose dans vos projets. Vous l'avez trouvée sous la main, vous l'avez prise, à la bonne heure. Mais ce ne peut pas être là un goût. Ce n'est même pas, à vrai dire, une entière jouissance. Vous ne possédez absolument que sa personne. Je ne parle pas de son cœur, dont je me doute bien que vous ne vous souciez guère. Mais vous n'occupez seulement pas sa tête. Je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais moi j'en ai la preuve dans la dernière lettre qu'elle m'a écrite. Je vous l'envoie pour que vous en jugiez. Voyez donc que quand elle y parle de vous, c'est toujours Monsieur de Valmont, que toutes ses idées, même celles que vous lui faites naître, n'aboutissent jamais qu'à Danceny. Et lui, elle ne l'appelle pas monsieur, c'est bien toujours Danceny seulement. Par là, elle le distingue de tous les autres. Et même en se livrant à vous, elle ne se familiarise qu'avec lui. Si une telle conquête vous paraît séduisante, si les plaisirs qu'elle donne vous attachent, assurément vous êtes modeste et peu difficile. Que vous la gardiez, j'y consens. Cela entre même dans mes projets. Mais il me semble que cela ne vaut pas de se déranger un quart d'heure, qu'il faudrait aussi avoir quelque empire et ne lui permettre, par exemple, de se rapprocher de Danceny qu'après le lui avoir fait un peu plus oublier. Avant de cesser de m'occuper de vous, pour venir à moi, je veux encore vous dire que ce moyen de maladie que vous m'annoncez vouloir prendre est bien connu et bien usé. En vérité, vicomte, vous n'êtes pas inventif. Moi, je me répète aussi quelquefois, comme vous allez voir, mais je tâche de me sauver par les détails, et surtout le succès me justifie. Je vais encore en tenter un, et courir une nouvelle aventure. Je conviens qu'elle n'aura pas le mérite de la difficulté, mais au moins sera-ce une distraction. Je m'ennuie à périr. Je ne sais pourquoi, depuis l'aventure de Prévent, Belleroche m'est devenu insupportable. Il a tellement redoublé d'attention, de tendresse, de vénération, que j'y ne peux plus tenir. Sa colère, dans le premier moment, m'avait paru plaisante. Il a pourtant bien fallu la calmer, car c'eût été me compromettre que de le laisser faire. Et il n'y avait pas moyen de lui faire entendre raison. J'ai donc pris le parti de lui montrer plus d'amour, pour en venir à bout plus facilement. Mais lui a pris cela au sérieux, et depuis ce temps il m'excède par son enchantement éternel. Je remarque surtout l'insultante confiance qu'il prend en moi, et la sécurité avec laquelle il me regarde comme à lui pour toujours. J'en suis vraiment humiliée. Il me prise donc bien peu, s'il croit valoir assez pour me fixer. Ne me disait-il pas dernièrement que je n'aurais jamais aimé un autre que lui ? Oh, pour le coup, j'ai eu besoin de toute ma prudence pour ne pas le détromper sur le champ, en lui disant ce qui en était. Voilà, certes, un plaisant monsieur pour avoir un droit exclusif. Je conviens qu'il est bien fait et d'une assez belle figure, mais à tout prendre, ce n'est au fait qu'un manœuvre d'amour. Enfin, le moment est venu, il faut nous séparer. J'essaie déjà depuis 15 jours, j'ai employé tour à tour la froideur, le caprice, l'humeur, les querelles. Mais le tenace personnage ne quitte pas prise ainsi. Il faut donc prendre un parti plus violent. En conséquence, je l'emmène à ma campagne. Nous partons après-demain. Il n'y aura avec nous que quelques personnes désintéressées et peu clairvoyantes, et nous y aurons presque autant de liberté que si nous y étions seuls. Là, je le surchargerai à tel point d'amour et de caresses, nous y vivrons si bien l'un pour l'autre uniquement, que je parie bien qu'il désirera plus que moi la fin de ce voyage, dont il se fait un si grand bonheur. Et s'il n'en revient pas plus ennuyé de moi que je ne le suis de lui, dites, j'y consens, que je n'en sais pas plus que vous. Le prétexte de cette espèce de retraite est de m'occuper sérieusement de mon grand procès, qui en effet se jugera enfin au commencement de l'hiver. J'en suis bien aise, car il est vraiment désagréable d'avoir ainsi toute sa fortune en l'air. Ce n'est pas que je sois inquiète de l'événement. D'abord, j'ai raison. Tous mes avocats me l'assurent. Et quand je ne l'aurai pas, je serai donc bien maladroite si je ne savais pas gagner un procès où je n'ai pour adversaire que des mineurs encore en bas âge et leurs vieux tuteurs. Comme il ne faut pourtant rien négliger dans une affaire si importante, j'aurai effectivement avec moi deux avocats. Ce voyage ne vous paraît-il pas gai ? Cependant, s'il me fait gagner mon procès et perdre Belleroche, je ne regretterai pas mon temps. À présent, vicomte, devinez le successeur. Je vous le donne en sang. Mais bon, ne sais-je pas que vous ne devinez jamais rien ? Eh bien, c'est Danceny. Vous êtes étonné, n'est-ce pas ? Car enfin, je ne suis pas encore réduite à l'éducation des enfants. Mais celui-ci mérite d'être accepté. Il n'a que les grâces de la jeunesse et non la frivolité. Sa grande réserve dans le cercle est très propre à éloigner tous les soupçons, et on ne l'en trouve que plus aimable quand il se livre dans le tête-à-tête. Ce n'est pas que j'en ai déjà eu avec lui, pour mon compte. Je ne suis encore que sa confidente. Mais sous ce voile de l'amitié, je crois lui voir un goût très vif pour moi, et je sens que j'en prends beaucoup pour lui. Ce serait bien dommage que tant d'esprit et de délicatesse allassent se sacrifier et s'abrutir auprès de cette petite imbécile de Volanges. J'espère qu'il se trompe en croyant l'aimer. Elle est si loin de le mériter. Ce n'est pas que je sois jalouse d'elle, mais c'est que ce serait un meurtre, et je veux en sauver Danceny. Je vous prie donc, vicomte, de mettre vos soins à ce qu'il ne puisse se rapprocher de ça, Cécile, comme il a encore la mauvaise habitude de la nommer. Un premier goût a toujours plus d'empire qu'on ne croit, et je ne serais sûre de rien s'il la revoyait à présent, surtout pendant mon absence. À mon retour, je me charge de tout et j'en réponds. J'ai bien songé à emmener le jeune homme avec moi, mais j'en ai fait le sacrifice à ma prudence ordinaire. Et puis j'aurais craint qu'il ne s'aperçût de quelque chose entre Belleroche et moi, et je serais au désespoir qu'il eût la moindre idée de ce qui se passe. Je veux au moins m'offrir à son imagination, pure et sans tache, tel enfin qu'il faudrait être pour être vraiment digne de lui.
Talk sweet talk and whisper things in your ear.